Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes jeudi 12 septembre 2024. Il sommes 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que nous démarrons l'émission Club de la Presse ainsi. Merci de nous choisir pour ce quatrième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor de Tomega est à la mise en onde, Jérôme Dacoucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Lousseau au micro. Vous nous suivez partout au Togo. Merci infiniment à vous qui nous suivez partout, bien sûr, au Togo, grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Merci également à vous tous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, mais aussi les radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, confrères journalistes en studio, Ambroise Kondjo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour les confrères ici présents, bonjour Togolaises et Togolais. Je voudrais profiter d'entendre avec cette suggestion à l'endroit du ministère de l'enseignement technique. Et du ministère de la Sécurité, en même temps de la mairie Golf 5 ou Golf 7, de faire en sorte de proposer de faire les feux tricolores au niveau de la en face du lycée technique de Lomé. Ce dont je parle, je sais de quoi je parle. Il y a des millions d'élèves qui rentrent dans ce centre sans qu'il y ait aucun dispositif de stop pour faire passer les enfants dans l'enceinte, ni à la sortie, ni à l'entrée. Donc, si au moins il y a un feu rouge, ou plutôt le feu tricolore là-bas, ça pouvait ralentir les cas d'accidents qui se produisent là-bas. Il y a souvent des cas d'accidents qui se produisent à la devanture du lycée. Mais en attendant que cela ne se fasse, que le ministère de la Sécurité nous fasse diligence pour qu'il y ait au moins deux policiers qui puissent au moins réguler la circulation déjà à partir de 6 heures où les enfants commencent par venir et à partir de 16 heures quand ils commencent par rentrer jusqu'à 18 heures. Là, ça pouvait aider les près de 4000 élèves qui rentrent par l'enceinte là.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise, d'avoir répondu à notre invitation. Magula Kenviteko, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour au confrère Ambroise, bonjour à tous les fidèles auditeurs qui nous suivent actuellement sur Canal F.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, et c'est vrai, je suis un peu revenu fatigué de notre fête dont on parlait.
Tout à fait, à Goudier, je pense. Goudier.
J'avoue que ce fut belle. Que ce fut belle et c'était une occasion vraiment manquée pour ceux qui étaient absents comme vous, comme Ambroise.
Je n'ai pas été invité tout au moins.
Non, mais c'était une invitation commune qui nous avait lancé.
Il faut avoir des cartes parce que le risque, bon, à cause de ma gloire, on le fait. Mais débarquer dans une fête, ce serait un peu compliqué.
Non, mais l'organisateur, tu le connais bien.
Ah, ok.
C'est ma gloire.
La prochaine fois, c'est la suite.
D'accord.
Parce que c'est un bras, je me suis tué. Après, tu ne seras pas trop. Donc, je n'ai pas à m'expliquer.
La prochaine fois, ce serait fait.
D'accord. Ce sera véritablement un grand honneur pour nous de vous compter parmi nous. Sinon, la fête était belle.
D'accord.
C'était les retrouvailles. On a encore retrouvé nos vieux amis et tout. Et vivement les prochaines éditions.
D'accord, vivement les prochaines éditions. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et nous allons assurer cette première partie de l'émission avec cette soirée qui est organisée. C'est une soirée anthologie. Soirée anthologie, quand on parle d'anthologie, on fait référence à la littérature. Alors, patron René Kou est là. Patron René Kou, bonjour.
Bonjour, monsieur Lossou.
Vous êtes écrivain, et pour ce qui concerne même d'ailleurs cette soirée anthologie, vous êtes l'un aussi des organisateurs.
Oui, oui.
D'accord.
C'est ça.
Alors, soirée anthologie, qu'est-ce que c'est?
Bon, bonjour aux auditeurs de Canal FM, bonjour aux journalistes qui sont ici dans le studio. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que la prochaine fois que l'invitation aussi soit envoyée aux poètes et slameurs, pour que la fête soit totalement belle. Bien, merci. Nous avons dirigé deux anthologies. La première, c'est avec Renaud, Aïd Ossavi et Koudavi Nomagnon, intitulée La sixième décennie, anthologie de poésie togolaise. La seconde, Tu aimes regarder les vagues, je l'ai dirigée avec un confrère camerounais qui s'appelle Reine Déby. Et le titre, c'est Tu aimes regarder les vagues, oui, comme je l'avais dit, qui regroupe cette anthologie 22 poètes du Togo et du Cameroun. Donc, ce que nous projetons de faire samedi, c'est de célébrer ces deux anthologies parce que dans le paysage, ce sont des ouvrages qui ne se font pas régulièrement. Et quand on les fait, il faut qu'on les célèbre, surtout les poètes qui contribuent à rendre ces anthologies une réalité.
Alors, souvent, c'est quoi la différence, ou du moins c'est la particularité d'une anthologie?
Une anthologie fait d'abord comme un rapport d'étape. Après une décennie, comme dans le cas de la sixième décennie, après une période donnée, on rassemble les voix poétiques de la période de la saison, ou peut-être des fois même une organisation thématique. On rassemble ces voix, et peut-être les meilleures aussi, surtout, et on les rassemble pour faire un cocktail disponible pour marquer ce temps, ou bien cette thématique, ou bien pour honorer la mémoire d'un confrère poète disparu.
D'accord.
Donc, une anthologie peut se faire dans ce sens. Et pour le cas de « Tu aimes regarder les vagues », c'est un brassage qu'on a fait. On est allé au-delà du Togo pour converser avec des poètes qui sont de l'autre côté du pays, de l'autre côté de l'Afrique, afin de, comme je le disais, de converser, d'échanger et de grandir ensemble. Voilà.
D'accord. Et pour ce qui concerne surtout la poésie togolaise, je sais que c'est 44 auteurs. Dont 33 âgés ou adultes et 11 jeunes qui ont écrit cette anthologie. Finalement, le nombre choisi, est-ce que ce n'était pas trop, est-ce que ce n'était pas pléthorique?
Non, pas du tout. En fait, ce n'était pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la publication. Un poète, quel que soit son âge, une fois publié, est poète, disons, confirmé. Et il y a des poètes en herbe, ceux qui n'ont pas encore publié un recueil. Et donc l'anthologie regroupe ces deux tendances. Ceux qui ont déjà au moins un recueil publié et ceux qui n'ont pas encore publié un recueil. Et donc il y a 33 de ceux qui ont déjà publié et 11 de ceux qui n'ont pas publié. Non, je pense que le nombre n'est pas pléthorique parce que tout le monde n'est pas dans l'anthologie. Et c'est, disons, un aspect que nous n'avons pas pu couvrir. Sinon, normalement, on aurait pu avoir tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont publié, qu'ils soient au Togo ou à l'extérieur, on aurait pu recueillir tout le monde. Mais le travail éditorial est ainsi que vous allez penser avoir tout fait. On a fouillé partout, on est allé chercher où on pouvait, mais au finish, on constate qu'il y a encore des poètes togolais publiés peut-être à l'extérieur et qu'on n'a pas pu inclure, même dans la décennie qu'on a choisie. Et donc voilà, c'est un travail déjà abouti, mais qui se remet à l'ouvrage encore. On est en train de penser à combler
se vise. Voilà 44 auteurs choisis. Est-ce que, comment ça, le choix a été fait? Et le chiffre 44 choisi, quelle est aussi sa connotation?
Bon, oui, je crois que le chiffre, nous n'avons pas au départ décidé de choisir 44 poètes. En ce moment-là, peut-être on aurait, je ne sais pas, une théorie derrière le chiffre, on allait expliquer pourquoi c'est 44, quel ange gardien derrière 44, etc., etc. Bon, mais nous espérons, nous pensons que le chiffre nous porte bonheur. 44,
33, 11, c'est des chiffres de bonheur.
Voilà. Oui, bon, ben, c'est ce que nous souhaitons. Nous inspirons cette espérance dans ce chiffre. Dans les chiffres, de façon généralement, des chiffres doubles, c'est des chiffres qui. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais bon, c'est des chiffres qui doublent la mise, disons. Et donc, ce que nous pensons, c'est que ça nous porte bonheur.
Et le choix de ces auteurs?
Oui, la sélection a été plaisante et difficile à la fois. Plaisante dans ce sens que nous avons été agréablement surpris d'avoir autant de poètes, parce que quand on faisait on énumérait les poètes, on pensait franchement que peut-être une vingtaine et puis on s'arrêterait là. Mais on a constaté qu'il y avait plus de poètes qu'on l'imaginait. Et d'autres étaient une découverte, pour certains. En tout cas, le comité qui a travaillé a fait la sélection. Et donc, oui, au départ, on ne pensait pas avoir autant de poètes. Et donc, c'était une surprise agréable. Deuxièmement, les textes sélectionnés de ces poètes. C'est là où le travail a été plus difficile et plus passionnant. Parce qu'il faut lire, il faut avoir lu tous les recueils. Certains ont publié 3, 4, 5. Il faut parcourir tous les recueils et choisir 4. Et ce n'est pas facile à faire. Des fois, on a un coup de cœur. On a pour un poète peut-être 4, 5, 6 textes. Et il faut faire le choix de 4 parmi ces 6 textes ou bien 8 qui vous parlent. Et c'est en ce moment-là que le travail devient plus... corsé et à la fois passionnant.
D'accord. Alors, le rendez-vous, c'est déjà le samedi prochain, hein? Déjà à partir de quelle heure?
Oui, nous convions les littéraires, les amoureux de la littérature et les journalistes. Je crois que vous devez la donner beaucoup plus à la littérature maintenant. Je sais que vous parlez beaucoup plus de politique dans le club de la Fraisse. Donc, je voudrais inviter, puisqu'il y a une statut d'invitation à l'entame de cette émission, je voudrais inviter
tout à fait.
M. Ambroise Kondjo et
Magloire,
et toi aussi d'ailleurs, tout je voudrais vous inviter à la dédicace ce samedi 14 à 15h à la grande salle de conférence du village du Bénin. C'est à l'intérieur de l'Université de Lomé.
D'accord. Merci beaucoup, patron, et d'écoute d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir. Nous allons nous retrouver le samedi prochain.
Ça fait plaisir aussi de passer dans le club de la presse, de la presse, et surtout avec un sujet pas commun.
Voilà.
La littérature, la poésie.
Voilà. Merci beaucoup, patron Renécou, d'être passé dans cette émission. Alors, chers confrères, nous démarrons cette émission comme je l'ai promis la fois passée. Ambroise, on démarre cette émission avec ce sujet que vous avez évoqué à la une alors de votre journal le jeudi dernier, bien sûr. Et vous parliez même d'ailleurs du gaz, du prix du gaz. Et vous disiez que le prix du le gaz est tellement cher au Togo et qu'il est très important de diminuer le prix. C'est bien ça?
Tout à fait. C'est avec intérêt que je reprends ce sujet sur ton inspiration. D'autant plus que la question fait vague sur les réseaux sociaux. Nous sommes à une période où le prix de ces produits hautement stratégiques est en baisse drastique, pour ne pas dire en totale diminution, qui devrait en principe avoir un impact sur le prix à la consommation. ce qu'on n'en a pas encore. Je suis en train de prendre un article sur le prix du pétrole, ça va venir la semaine prochaine. Mais je dis, le gaz a résolu beaucoup de problèmes dans les ménages, dans les foyers. Vous savez, quand il pleut, vous n'avez plus la chance de mettre du bois dans les fourneaux. Quand il pleut, mettre même du charbon de bois, faire le feu avec le charbon du bois dans la chambre, ceux qui sont dans entrée sortie ou ceux qui sont dans la chambre salon, c'est pas évident. Parce que d'abord, il y a les enfants, il y a un peu de tout, il y a les habits, il y a tout. Ça peut prendre à tout moment. Et donc, c'est vrai que le gaz aussi a un côté dangereux. Il suffit de savoir comment l'utiliser. Mais je me dis que le gaz a un avantage considérable. Ce que vous allez préparer, vous voulez préparer du riz ou de la pâte dans 20 minutes, le gaz le fait en 2 minutes, en 5 minutes. Ça, c'est la première qualité du gaz. Maintenant, si ce produit-là venait à être habillé, les Togolais ont pris l'habitude d'utiliser ce produit-là, surtout dans les zones urbaines, que ce soit le mets à TV et tout ça. C'est vrai que dans les zones rurales, c'est toujours le bois qui passe. Rares sont ceux-là qui utilisent le gaz. Mais non, pourquoi cette taxation du gaz à 10 000 francs, à 9 900 francs, contrairement au prix en C qui est de 6 500 francs, la bouteille de 12,50? Je crois que c'est une escroquerie. Hein? Si je ne donne pas le nom escroquerie, ça doit être un problème. Parce que les pays voisins, les gens sont à 4 000. Les gens sont même à 2 500. Les gens sont à 3 000. Je parle du Mali, du Niger et autres. Et maintenant, au Togo, où le niveau de vie est déjà à un niveau, et que le coût de la vie est devenu cher, mais les autorités ont augmenté le prix du gaz. Maintenant, on va vous dire qu'il y a, c'est l'homme qui devait appeler la dernière fois, scientifiquement, et je respecte ça au sein de développement scientifique, que quoi, il y a Sanol, il y a Total au départ, il y a Sodigaz et Sanol. Mais en principe, on avait un seul fournisseur qui était Total, dans le temps, depuis des années, depuis le temps de Molo. Maintenant, Total a été rejoint par Sodigaz, entre-temps, et maintenant, Sanol. Bon, s'il y a trois producteurs ou trois fournisseurs du gaz au Togo, le prix devait être toute défiance ou concurrence, comme on le dit. Le prix devait être cassé. J'ai l'impression que, comme au niveau de téléphonie, là, si on va revenir, les gens nous ont entendu pour fixer le même prix. Maintenant, quand ils ne disent pas que c'est les importateurs du gaz qui ont fixé le prix ensemble, alors que c'est deux sociétés différentes, de capitaux différents. Ça voudrait dire que c'est l'État togolais qui est derrière cette arnaque-là. Ça, ils appellent ça arnaque et escroquerie. Parce que vous n'avez pas décidé d'imposer des taxes aux gens et en même temps de crucifier les Togolais, ne serait-ce que pas le gaz, le prix du gaz, ce que les gens prennent pour préparer et manger. Mais c'est la méchanceté. D'accord. C'est la méchanceté. Pour vous dire que quand vous allez au niveau de ceux-là qui vendent les motos, vous faites des investigations, vous direz que c'est pas nous, hein, c'est les taxes. C'est-à-dire qu'une moto qui se vend 525 000 francs, après un an, tu vas retrouver ça à 700 000 francs. J'en ai fait l'expérience 4 fois, hein. J'ai acheté 5 motos. Si je vous donne les prix maintenant, souvent les mêmes motos, vous allez crier. Pourquoi on augmente 150 000, 200 000? Qui prend cet argent-là? L'importateur dit que ce n'est pas lui. Qui prend cet argent? C'est le ministre quelque part qui le prend? Ou c'est les taxes toujours? Mais il faudrait qu'on arrive à dénoncer ces dérives-là, ces dérives financières qu'on ne peut pas tolérer dans ce pays. D'accord, on vous laisse faire déjà de la misère. Et il faut l'épargner de ce. Parce que si ce pays, si les gens veulent réclamer tout ça, les gens vont quitter, vont prendre pas la mer.
D'accord, ok.
Parce que
merci,
les gens sont déjà
mérés. Merci beaucoup,
Amourage. On va en ajouter ce qui
se passe. Merci beaucoup, Amourage. Magla, c'est vrai que vous avez.
Je suis un colère comme ça.
Oui, mais je vous comprends. Je comprends votre émotion sur la question. Alors, Magla, vous allez au-delà même d'ailleurs de cette question de gaz et vous parlez de la vie chère. Vous écrivez Togo, vie chère, préparer et manger un luxe. C'est ça une interrogation, c'est-à-dire c'est une question que vous vous posez.
Oui, c'est. C'est une question que nous nous posons par rapport à l'existence, c'est-à-dire par rapport à la réalité que nous vivons tous aujourd'hui. Et c'est notre plus belle manière de caricaturer la situation du Togolais lambda aujourd'hui. C'est-à-dire que Ambroise parlait du gaz, c'est vrai, on en a débattu l'autre fois, et l'homme a rajouté avec un développement assez scientifique et méthodique de la procédure, de la commande jusqu'à la vente. On comprend, mais la réalité, comme je le disais la semaine passée, la réalité, c'est que le Togolais lambda, le Togolais à la base, a du mal, n'est-ce pas, à s'offrir, que ce soit le gaz ou que ce soit le repas quotidien. Et aujourd'hui, avec les anomalies climatiques et tout ce qui s'ensuit comme conséquence, on sent déjà une certaine fluctuation des prix. Il y a sur le marché, les denrées alimentaires ont connu encore des... en tout cas, les prix ont flambé d'un coup. Il y en a, tu sais, commerçants aussi véreux qui se lancent dans la surfacturation. Et donc, aujourd'hui, nous avons dit que c'est aussi notre devoir en tant que journaliste de lancer l'alerte. On l'avait dit la semaine passée, on ne cessera jamais de le dire. Et c'est un cri de détresse, c'est un cri d'alarme que notre rédaction a décidé de lancer à l'endroit des gouvernants. Parce que, comme nous le disons, nos enquêtes nous ont révélé qu'à l'heure actuelle, il y a de ces opérateurs économiques qui se lancent beaucoup plus à l'assaut du Togo de l'intérieur et auprès des paysans pour, n'est-ce pas, acheter en grande quantité les céréales qui sont sorties parce que nous sommes à un moment de la récolte. Et normalement, lorsque nous sommes à des périodes comme ça, de récolte, ça devrait répercuter sur le prix des céréales sur le marché. Mais le contraire est que le prix n'a jamais baissé, au contraire, ça augmente. Et ça questionne sur comment on régularise, n'est-ce pas, le prix de tous ces aliments, de tous ces céréales sur le marché. Et donc, nous, on a décidé, n'est-ce pas, d'interpeller les gouvernants, à être beaucoup plus regardants dans ce qui se fait. Parce que peut-être une catégorie a les moyens de s'offrir le repas quotidien, mais pour la grande masse, parce que le vrai problème du Togo, c'est qu'on le dit toujours, il y a une petite minorité, n'est-ce pas, qui a tout, et il y a la grande majorité qui manque de tout aussi. Logiquement, c'est qu'on devrait avoir trois classes sociales, la bourgeoisie, n'est-ce pas, les prolétaires, et la grande classe moyenne, qui doit comprendre la majorité des Togolais.
Vous avez l'impression que cette classe moyenne n'existe pas?
Elle n'existe pas. Ce n'est pas que nous avons l'impression. Et tous les Togolais vous le diront. Soit au Togo, vous en avez ou vous n'en avez pas. Et c'est ça le drame
réel. Mais quand on parle alors de la vie chère, est-ce que ce n'est pas un problème qui touche pratiquement tous les pays maintenant? Parce qu'on se souvient tout récemment avec le Nigeria, le mouvement ou les manifestations au Nigeria, même au Ghana, tout près de nous, au Bénin également, il y avait eu entre-temps des syndicalistes qui avaient voulu organiser une manifestation compte tenu alors de la vie chère. Donc, est-ce que ce n'est pas... Le Togo ne fait pas l'exception, n'est-ce pas?
Non, mais tout à fait. Disons-le clairement. Nous ne disons pas que le Togo fait exception, mais nous sommes Togo. Voilà, on ne peut que parler du Katogo et chercher les voies et moyens pour sortir de cette situation. Et je ne vais pas me répéter, mais le Burkina également fait face à la vie chère. Mais comment comprenons-nous alors que dans cette situation, qui est, on va dire, générale, le Burkina, par exemple, arrive à vendre le gaz à ses concitoyens à 2000 ou à 2500? C'est la question qu'on se pose. Est-ce à dire que le Togo n'a pas les moyens du niveau du Burkina pour aussi aider ces populations, n'est-ce pas, à se procurer le gaz? Et c'est ça la grande question. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'homme, la dernière fois, parce que justement, son mémoire a porté justement sur cette thématique, il a fouillé, il a ressorti justement ce qui pouvait, les éléments qui pouvaient contribuer à cette situation. Et je peux le dire, pour ce qui est du gaz, par exemple, on ne peut pas admettre aujourd'hui que l'État cède carrément ce secteur, le secteur du gaz au privé. Et voilà qu'ils en font ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire, et ça pénalise les citoyens lambda. Quand on dit que l'État a droit de regard, pour moi, c'est qu'à la fin, que ça soit supportable pour les populations à la base.
D'accord.
Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous posons la question. Et voyez-vous, aujourd'hui, la politique globale, pas seulement au Togo, mais un peu partout dans le monde, c'est que tous les États travaillent à la protection de l'environnement. Mais comment on peut investir autant de moyens dans la politique de protection de l'environnement et au même moment, le prix du gaz, n'est-ce pas, est à un coût qu'on connaît aujourd'hui. Ça voudra dire que quelque part, on fait une chose et on encourage son contraire. C'est-à-dire que quand les Togolais qui voudraient bien participer à la protection de l'environnement, parce qu'on dit un corps sain dans un, doit vivre, n'est-ce pas, dans un environnement sain, mais quand tu n'as pas les moyens, mais tu fais comment? Parce que tu dois te chauffer au quotidien, tu dois préparer au quotidien, mais tu es obligé de te replier sur le bois de chauffe. Et alors là, tu détruis l'environnement, tu participes à la destruction de l'environnement. Et le bois de chauffe, ça a également contribué, n'est-ce pas, à la destruction de la couche d'ozone.
Merci.
Et c'est tout ça qui nous amène à nous poser les bonnes questions. Et donc aujourd'hui, la question, elle est fondamentale, nous le disons, mais nous n'exagérons pas. Aujourd'hui, pour les Togolais, pour se nourrir, c'est devenu du luxe pratiquement. Or, ça ne devait pas être le cas. Et donc, l'une de nos pistes de solution, c'est qu'on demande à l'État togolais, par exemple, de contrôler maintenant le commerce du céréal au Togo, parce que beaucoup plus d'opérateurs économiques font, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'ils vont à l'intérieur du pays, ils achètent, ils constituent leur lot pour faire non seulement de la surenchère, mais exporter aussi. Pendant que le Togolais, là-bas, à l'intérieur, cherche de quoi se nourrir.
Merci beaucoup, Magloire. Et Elan Matissobé nous a rejoint. Elan, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour à toutes et à tous.
Je l'ai promis. Nous sommes revenus vraiment sur ce sujet qui te tient vraiment à cœur.
Non, ça tient à cœur à moi.
Oui, mais je
veux comparer.
Justement, Elan, pour avoir travaillé sur cette question de gaz, pourquoi le gaz est cher au Togo?
Moi, je ne suis pas acteur, vous savez, je ne suis pas opérateur économique, importateur de gaz. Comme je l'ai dit la dernière fois, mes travaux de recherche ont porté sur cette filière. Et auparavant, j'avais la même réaction qu'Ambroise. C'est l'occasion plutôt de nous inviter à des passionnés de débat. Il n'y a pas à mettre du cœur dans ça. C'est vrai que les prix, quand on les voit à l'analyse classique, c'est vrai qu'il y a une petite différence quand on prend le Togo et les autres pays de la sous-région. À l'échelle sous-régionale, il y a une petite différence. Mais il faut aussi voir comment, est-ce que, comme il l'a dit, c'est Total le plus vieil acteur de production, de commercialisation du gaz, pas seulement au Togo, mais c'est parce que Total, c'est quand même l'un des plus vieux, vieille structure d'hydrocarbures dans le monde. Donc, après, Zener a pris le Zener ex-Sodigaz a pris le lead aujourd'hui. C'est lui le distributeur principal, parce que c'est chez lui-même que les autres plateformes viennent s'approvisionner. Et aujourd'hui, quand on parle de prix, depuis 2005, il faut dire qu'un arrêté interministériel vient justement fixer le prix du gaz. Ce n'est pas les opérateurs qui fixent le prix. Vous savez que lors de la dernière hausse des prix du gaz, ça a suscité une levée de bouclier. Vous vous rappelez, il y a eu une confusion dans la communication publique parce qu'on a tendance, on a eu tendance à faire croire que oui, c'est les opérateurs économiques qui ont fixé le prix. Mais depuis 2005, l'arrêté ministériel est clair. C'est ça la loi. C'est l'État qui fixe les prix des produits pétroliers à la pompe, dont le gaz butane, puisque le gaz butane fait partie des produits pétroliers à la pompe. Maintenant, la fixation du prix de l'État fait partie de son rôle de régulation des prix du gaz sur le marché, puisque c'est les opérateurs économiques qui font la commande, contrairement aux autres produits pétroliers dont l'État a le monopole de la commande. C'est-à-dire, quand c'est le pétrole, l'essence, le super samplon, c'est l'État qui fait la commande. Mais quand c'est le gaz butane, c'est le privé, c'est le secteur privé, à travers les 5 opérateurs qui sont là, qui font la commande, etc. Mais c'est l'État qui fixe les prix. Après, on va discuter avec eux en maintenant un mécanisme de régulation. Bon, maintenant, moi, j'aurais souhaité plutôt que... c'est vrai que depuis quelques semaines, le gouvernement a amélioré sa communication. On voit des ministres qui vont sur plusieurs médias, pour pouvoir parler de beaucoup de sujets, d'accord, qui touchent directement leur département. Et j'aurais voulu que, lors d'une prochaine communication, que Madame le ministre du Commerce ou Monsieur le ministre des Ressources énergétiques viennent expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là sur les prix? Parce que moi, je ne fais pas partie du mécanisme de régulation. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe. Mais je peux vous donner des informations sur la base des recherches que j'ai faites dans le domaine. Mais comment ça se passe en matière de régulation, je ne suis pas au comité pour savoir. Mais de la petite expérience que j'ai, de ce que je sais, c'est ce que je suis en train de dire, ça, c'est une filière sur laquelle il y a peu de communication. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, l'État doit expliquer son rôle de régulation par rapport au marché. Parce que, comme Ambroise l'a dit, quand vous allez au Burkina, les prix sont différents. Quand vous allez au Bénin, les prix sont différents. Mais ailleurs, c'est un peu plus cher aussi que le Togo. Vous comprenez? C'est pas que le Togo est le pays qui applique les coûts les plus chers en matière de gaz butane. Parce qu'il faut reconnaître que c'est progressivement, aujourd'hui, on n'est même pas encore à 45% de consommation de gaz butane au Togo. C'est en 2030 que les études démontrent qu'il faut aller peut-être, on peut aller à 45%. Donc ça voudra dire qu'il y a suffisamment de Togolais, de compatriotes qui utilisent le gaz aujourd'hui, en tenant compte aussi du développement durable. Et il faut noter aussi qu'on n'a pas une politique nationale de vulgarisation du gaz butane. Depuis longtemps, entre décembre 2009 et janvier 2010, si ma mémoire est bonne, la CDO avait lancé le recrutement d'un consultant qui sera spécialisé en matière d'élaboration et de la politique nationale de vulgarisation du gaz butane en tenant compte du contexte du développement durable. Donc, ce qui intéresse beaucoup les Togolais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que les coûts puissent descendre. Oui, tout le monde souhaiterait acheter le gaz à des coûts beaucoup plus réduits et que ça soit accessible. Je comprends ce qu'Ambroise dit, mais dans une certaine mesure, comme je l'ai dit, je ne suis pas... Je ne viens pas porter la parole de ceux qui doivent justement le faire, mais je les invite aussi, lors de leur prochaine sortie, à se prononcer sur le sujet. Parce que quand il y a augmentation et diminution des prix des produits pétroliers à la pompe, on parle beaucoup plus du super sans plomb, du diesel, du géol, et aussi du pétrole lampant. Et on parle pas beaucoup du gaz butane. Vous comprenez? Et ça aussi, ça a joué depuis 2010. Quand il y a augmentation de prix, on parle de ces trois produits, on oublie le gaz butane. Alors qu'aujourd'hui, le gaz butane aussi est une réalité dans nos ménages. Donc, il faut que l'État puisse renforcer la communication, sa communication, sur ce volet de la chose, pour que les Togolais comprennent clairement ce qui se passe, et afin de pouvoir commencer à équilibrer la compréhension.
D'accord.
Au niveau de tout.
Okay, merci beaucoup, Elom. Oui, Ambroise.
Oui, je comprends le développement de Elom et toute sa démonstration. C'est tout ce qu'il dit là, c'est bon. Mais le Togolais, c'est que le Togolais veut revoir le prix du gaz à 5 000 francs. Ne serait-ce qu'à 5 000 francs et avancer quoi. Je dis, nous rentrons bientôt l'utilité du gaz même, au-delà de ce qu'on gagne en temps, c'est la période à laquelle on l'utilise. La période de pluie, mon frère, le gaz devient utile. Il faut aussi interdire aux taxis même l'utilisation du gaz. Ça, je reviens sur ça aussi.
Oui, c'est ça important.
C'est parce que eux aussi, ils rentrent dans ça. C'est vrai que ça arrange les importateurs, les produits, ceux-là qui commercialisent, mais ça n'arrange pas la sécurité des populations.
Tout à fait.
Et ça fait que l'augmentation, ça dit que pour eux, c'est bon quoi.
Ils commercialisent
ça. Et donc, nous, notre souhait, moi je ne peux jamais prendre un taxi où je sais qu'il y a la bombe derrière.
Quelle bombe?
Le gaz, c'est une bombe. Attention! Le gaz, c'est un cocktail. Oui! Eux-mêmes, ça y suffit que le monsieur qui vient de Colocopé là, lui aussi veut conduire taxi, il est arrivé à le mettre, et on l'a appris juste sur l'état. De façon fortuite, il arrange le câble là-bas, et en cours de route, tap! C'est un cocktail Molotov. Je ne dis pas aux gens de craindre de prendre les taxis, mais que les taxis même eux-mêmes soient en sécurité et que leurs passagers soient en sécurité, c'est ce qui importe. Et ça agit sur le prix aussi du ménage. Parce que ceux-là qui importent, ils savent qu'eux aussi achètent. Donc, moi, je demande à l'État, je n'ai rien contre ceux qui importent. Eux, ils nous aident plutôt à avoir plus de gaz dans le pays. Maintenant, c'est ceux-là qui en bénéficient là. Les mêmes taxes qu'on vous a fournies tout le temps. C'est-à-dire que finalement, tout ce que tu disons, montre, bague, tout ça là, tout est taxé. Donc, qu'on subventionne au moins les produits là que nous utilisons tous les jours, le gaz, le pétrole. Le pétrole est à 109. Le pétrole, le cours du baril descend de, est descendu à $69 il y a deux jours. nous nous sommes toujours à peu 600 francs. Mais avant de venir avoir le prix du pétrole à 300, à 250, mais vous n'aurez jamais ça au Togo. Parce que quand ça vient là, eux, ils amassent ça, ils accumulent, ils en bénéficient. Maintenant, ils vous diront après que quand ça va augmenter, ils vont injecter pour pouvoir compenser. Je peux les comprendre. Mais là, c'est eux qui en gagnent. Soit c'est l'État ou c'est les importateurs qui en gagnent.
D'accord.
Qu'on voit clair dans ce qui se passe dans ce bunker là-bas au ministère du Commerce.
D'accord.
Il faut qu'on revienne sur le sujet.
D'accord. L'essentiel, c'est que vous évoquez le sujet, on va en parler. Mais on va quitter le sujet. On parle maintenant de cet arrêté interministériel de ministère, bien sûr, de l'éducation. Je vais bien parler alors de cet arrêté qui porte sur l'interdiction de l'utilisation de téléphone en milieu scolaire. Il y a le journal Le Changement qui est revenu sur le sujet. Et le journal écrit « Interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les écoles, une mesure salutaire qui pose problème et suscite interrogation. » Alors, Magloire, est-ce que déjà quand on prend déjà cette rentrée 2024-2025 qui sera effectuée le lundi prochain, le téléphone ne sera plus admis à l'école. Est-ce que c'est vraiment une mesure aussi salutaire?
Oui, bien évidemment, c'est une mesure salutaire. Même peut-être on va nuancer un peu, c'est pas une interdiction formelle comme ça, mais c'est plutôt une manière de réglementer l'interdiction du téléphone en milieu scolaire. Et ça, nous l'avons toujours dit. Vous savez, aujourd'hui, vu l'évolution du monde avec la technologie et tout ce qui va avec, on a vu, n'est-ce pas, les dérives de nos petites soeurs, de nos petits frères, de nos petits frères, les élèves, l'utilisation qu'ils en font du téléphone. En réalité, ce n'est pas mauvais qu'un élève puisse détenir le téléphone. Mais sauf que l'inconscience jouant aussi son tour avec nos frères, on a vu que parfois, au lieu de se concentrer sur le coup, ils se jouent. Ils ont leur smartphone en main et ils font ce qu'ils peuvent faire. Et on a vu que l'année passée, par exemple, ça a coûté justement la sanction pour un élève, je crois, de Cara, et qui, pendant que l'élève était en train de dispenser son cours...
Et l'enseignant vous le dit. L'enseignant est en train de dispenser son cours.
Exactement. Et l'élève, lui, il s'en foutait pas mal. Il était avec son téléphone et il faisait le TikTok avec. Et donc, aujourd'hui, je crois que... C'est vrai que quand on parle de l'éducation, les enseignants font partie de ces acteurs-là qui sont censés éduquer les élèves. Mais n'oublions pas que les parents aussi ont leur responsabilité dans la chaîne. Et je crois que l'État qui a mis à disposition de ses élèves, ses enseignants, a décidé de jouer pleinement sa partition. Et on ne peut qu'encourager justement l'État à aller dans ce sens. Et vous allez voir... Et pour certains parents, l'explication qu'ils donnent, c'est que on a donné le téléphone à l'enfant pour être en contact avec lui et tout ça. Mais ce n'est pas mauvais. Mais la réalité est que est-ce qu'on contrôle à un moment donné l'usage que l'enfant fait du téléphone? Et c'est ça qui est dangereux. Parce que non seulement quand vous prenez les réseaux sociaux maintenant, hier c'était Facebook, mais aujourd'hui complètement Facebook, on va dire, est devenu caduque. Oui, c'est TikTok. Et le caractère dangereux même de la chose, c'est que TikTok, c'est que ça bouffe le temps et ça dénature carrément. Et si vous ne savez pas faire attention, vous êtes là, vous voulez peut-être passer 2 ou 3 minutes, mais 1 ou 2 heures vont passer tout à l'heure. Et ça n'avantage pas celui-là qui est censé être concentré sur ses études. C'est pour ça que nous félicitons le gouvernement pour cette disposition, et ça devrait être pérenne, c'est-à-dire que ça ne doit pas un coup d'essai comme ça qui va s'estomper du jour au lendemain. Ça doit être, et ça je peux compter sur le ministre Okoroko, parce que il a déjà entrepris plusieurs réformes qui aujourd'hui portent leurs fruits. Et donc aujourd'hui, l'interdiction, je ne dirais pas formelle, mais de façon méthodique de l'utilisation du téléphone par les élèves, c'est une bonne décision, une première décision assez bonne pour les élèves à la veille de cette rentrée scolaire.
D'accord. Alors, vous trouvez aussi que c'est une bonne décision?
Pas une très bonne décision. Vous savez que c'est pas la première fois qu'on note qu'il y a une interdiction du téléphone en milieu scolaire.
Tout à fait.
Par le passé, on dit toujours, mais les enfants viennent avec un téléphone portable. Nous espérons que cette fois-ci, ça va être une mesure rigoureuse pour que les élèves comprennent que le milieu scolaire, c'est pas un milieu où on vient faire TikTok, on vient s'exposer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant de CP1 devant vous, il peut vous dire tapoter l'écran. Et facilement, même les enfants de CP1 vous disent ça. Mais vous êtes choqués, mais votre enfant vous dit tapoter l'écran. C'est super. Au CP1, les enfants vous disent ça. Vous dites, mais on est dans quel monde aujourd'hui? Mais attends, c'est choquant, la limite. Donc, il faut que cette mesure puisse véritablement être rigoureuse, afin que les gens comprennent que c'est vrai que les parents achètent de plus en plus de téléphones à leurs enfants. Peut-être ils sont au boulot, ils veulent savoir si la journée se passe bien, ou bien s'ils ont fini les cours pour qu'ils puissent venir le chercher ou récupérer l'enfant. Mais je crois qu'il faut mettre maintenant des garde-fous pour que l'enfant ne puisse pas amener son téléphone à l'école. Ou sinon, vous lui mettez un téléphone 1+1. C'est-à-dire un téléphone avec une lumière bleue ou jaune. Et si vous avez besoin de lui d'urgence, vous lui mettez ça dans le sac. Il sait que vous savez personnellement, lui aussi, il sait qu'il n'a rien à foutre avec ça, sinon recevoir des appels ou faire des SMS. Parce que c'est les réseaux sociaux qui créent le problème. Vous comprenez? Si tout le monde avait un téléphone 1+1, ou un téléphone 1+1, ce que je voulais dire, c'est que vous savez, rappeler de l'époque d'une société de téléphonie où il y avait une promotion 1+1, un téléphone avec téléphone Siemens avec une lumière bleue, un téléphone plat, il n'y a rien dessus. Mais juste prendre des appels à faire des SMS, le problème ne se poserait même pas. Parce que personne ne serait enclin à regarder sur son téléphone si ce n'est pas qu'il vibre ou qu'il sonne. Si personne ne t'appelle, tu vas faire avec le téléphone. Chez il n'y a que appel, messagerie, et puis extra, c'est fini.
Il y a des jeux aussi.
Oui, il y a des jeux, mais bon, aujourd'hui, au 21e siècle, je ne vois pas quelqu'un qui va aller jouer du Snake avec un téléphone plus en pleine classe. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça le problème. Les gens veulent aujourd'hui, le gouvernement veut réguler cela, les réseaux sociaux. Mais à part les téléphones portables, moi, je voudrais qu'on puisse aussi penser à faire de l'éducation aux médias. En faisant de l'éducation aux médias, il faut introduire une matière ou une unité d'enseignement comme ça pour que les gens sachent aussi comment utiliser les réseaux sociaux. Une chose est d'interdire le téléphone à l'école, mais quand l'enfant rentre à la maison, il peut être sur son téléphone de 14h à minuit. Personne ne peut contrôler ça. Mais il faut aussi inculquer à l'enfant comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux. Donc, il faut faire de l'éducation média déjà à l'école pour que l'enfant sache que oui, je peux utiliser les réseaux sociaux, mais je dois l'utiliser à bon escient. Qu'est-ce que j'en fais? Quelles sont les pages que je visite? Quelles sont les pages que je dois visiter? Et quels sont les comptes que je dois avoir? Quels sont les amis que je dois suivre? Pour son éducation, pour son intuition, pour qu'il puisse mieux développer ce qu'il est en train d'apprendre à l'école. Donc, c'est aussi important. Ça fait quand même des mois, des semaines que, oui, personnellement, j'en parle. Mais à côté du bâton, qui est d'interdire, il faut aussi la carotte, qui est d'introduire une matière comme l'éducation aux médias pour que les élèves sachent comment on utilise les réseaux sociaux.
D'accord. Oui, mais aujourd'hui, c'est une disposition, c'est une mesure qui est prise par le gouvernement. Mais au-delà de tout, il faut aussi le concours des parents pour que cela soit effectif.
Absolument. Je crois qu'on ne peut pas avoir un tout dans cette décision, surtout dans son applicabilité, sans avoir associé ou sans associer les parents. Surtout que j'aurais appris que les parents d'élèves seront sensibilisés au cours d'une rencontre dans les établissements scolaires, comme ça se fait. Il y a l'association des parents d'élèves au plan fédéral, il y a la fédération, il y a chaque établissement à une association des parents d'élèves. Je crois que c'est un élément important. Et vous savez, moi, le ministre était présent, on était ici avec 2 semaines ou 3. Moi, j'ai été clair, la dernière fois, on était à la rencontre avec les 3 ministres au niveau du ministère de la Communication. D'ailleurs, j'ai été le premier à le dire, que moi, je suis très content de cette décision, parce qu'il suffit de frotter un peu avec les enfants, les élèves, dans l'établissement, tu comprendras. Allez, ici, en tout cas, solidarité. Il faut qu'on cite. Puis, s'il s'agit des établissements publics, il faut qu'on arrive à citer. Allez, au niveau il y a même des collèges confessionnels. Allez, c'est technique. aller au lycée Saint-Dio, au collège protestant, aller au lycée Bénédicte, à l'NDE, aller, comment l'appeler, pas le signe qu'on appelle, le signe qu'on appelle, c'est un étage. Si on avait ce que j'ai quoi à côté. À part les deux lycées modernes, t'as les deux gommés, et un et deux, dont le phénomène n'est pas aussi. Il y a ce phénomène dans plusieurs établissements. Et donc, nous, aujourd'hui, la décision là, il faut la mettre en application avec toute sa rigueur. J'ai suivi un inspecteur hier sur un média qui relativisait que le téléphone, ce n'est pas le téléphone qui est interdit, que c'est l'utilisation. Mon ami, si tu me dis que c'est le téléphone qui n'est pas interdit sur l'utilisation, l'enfant va amener le téléphone à l'école, même dans le sac, donc il ne l'utilise pas. En attendant que le professeur fasse son cours, lui, il va peut-être baisser la tête pour dire comme quoi il va continuer. Il faut interdire carrément le téléphone à l'école. J'ai dit la dernière fois ici que j'ai suivi un reportage sur France 2 en France où, dans l'établissement là, on ramasse les téléphones des enfants. On le met dans des tiroirs. Il y a deux surveillants. À la fin de l'école, à 14h, 16h, les enfants reprennent le téléphone. Ça, peut-être, c'est pour faire le couloir entre les parents et l'enfant pour venir peut-être prendre l'enfant et tout ça là.
En tout cas, garder le contact.
Garder le contact avec le parent. Au demeurant, un enfant qui vient à l'école peut laisser le téléphone chez le surveillant. Ou sur quelque part. Peut-être, avec le temps, on pourrait en arriver là si l'enfant comprend, comme il nous l'a dit, l'utilité du portable. Parce que les gens gagnent beaucoup, ceux qui sont dans le privé, gagnent beaucoup avec TikTok. Hein. Moi, je connais des amis qui vendent, mais qui font des millions avec TikTok. Mais que TikTok et autres là, que ça soit interdit d'abord au niveau des écoles. Quand l'enfant va aller au niveau de l'université, ok, on peut lui laisser le téléphone. J'avais même imaginé, est-ce qu'on peut trouver une alternative pour les élèves du terminal? Mais il y a les iPads. Il y a aussi, comment vous l'appelez, les ordinateurs que l'élève du terminal peut utiliser. S'il en a besoin. Parce que nous, on a été à l'école, on n'a jamais utilisé les ordinateurs. Mais on est là où on est aujourd'hui pour dire qu'en réalité, le problème, ce n'est pas l'utilisation, ce n'est pas le téléphone. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir le téléphone dans l'établissement. Je vais ajouter à ça. Si le ministre Kokoroko est à l'écoute et le ministre de l'enseignement technique est à l'écoute, l'alcool et la drogue, je viens de dire quelque chose sur l'alcool, ça aussi ils sont en train d'étudier ça. La drogue, s'il arrive, s'ils veulent fouiller le sac des enfants à l'entrée des classes tous les matins, ils vont le faire. Il y a des dealers dans les établissements, je ne blague pas. Il y a des dealers, des élèves, des premiers terminaux qui s'adonnent à ça. Et tu ne vas pas imaginer. J'ai appris qu'ils mettent ça dans des bonbons aussi, ils mettent dans des gâteaux. Il y a des bonnes femmes qui participent à ça. Et celles, les bonnes femmes qui vendent dans les établissements, que ce soit privé ou public là, il faut les surveiller comme du lait sur le feu. Tout ce qu'elles vont préparer là, on est à l'université, il y avait une décision, c'était M. Dubénin, c'était en 99-2000 là, il y avait une décision au niveau de la fac de droit, du droit folie, qui demandait, c'est une chose, c'est tout l'université, vous préparez en même temps, mais tu dois voir ce que vous préparez. On ne prépare pas tout l'avenir dans l'université. Tout le monde peut pas dans l'enseigne. Il faut que ça là, que ça se fasse dans tous les établissements. Les bonbons que les enfants prennent, les gâteaux, il faut voir l'origine, comment on fabrique ça, d'où vient ce gâteau-là. Donc, pour dire que quand il est interdit le téléphone, il faut aller directement aussi au niveau de surveillance de ceux-là qui apportent la drogue dans l'établissement. Parce que il y a un élève qui a été connu très bien à l'école, dont les camarades l'ont traîné dans la drogue. C'est sérieux, il est dans un ghetto actuellement. Un enfant de 17 ans qui a son bac, très bien. Parce qu'il ne sait pas, il y a des enfants qui aiment la compagnie. C'est les compagnies qui détruisent les enfants. Les enfants sont plus gâtés à l'école qu'à la maison. Si vous faites à l'école, vous ne le savez pas.
D'accord. Ok. William, Magla?
Oui, je crois que le sujet vraiment d'actualité, qu'il faille passer peut-être le plus clair du temps à l'expliquer, à le réexpliquer aux gens. J'en parlais tout à l'heure, on parle d'interdiction. Est-ce que l'élève doit amener son téléphone à l'école et ne pas l'utiliser? Est-ce qu'il ne fallait même pas amener le téléphone à la maison? Je crois que la décision est un peu claire là-dessus. C'est que d'abord, on demande aux élèves qui peut-être veulent amener leur téléphone à l'école, de tout faire pour que ça ne mette pas de bruit. C'est-à-dire que si, en plein cours, on constate où le téléphone d'un élève fait du bruit, c'est-à-dire sonne, ou alors émet des vibrations, le téléphone sera retiré et en tout cas sera retiré définitivement. Et ça ne sera plus rétrocédé, n'est-ce pas, à l'élève. Ça, c'est pour, peut-être pour ce qui est de, d'un aspect de la décision. Mais il est dit quelque part que oui, il peut arriver qu'un enseignant, par nécessité du coup, demande qu'on sorte les téléphones pour faire des recherches. Et juste après, on range encore les téléphones. Ça aussi, c'est un autre aspect. Mais je crois que ce qui est encore plus intéressant à rappeler aux élèves, c'est que l'article 5 de cette décision va au-delà même du cadre scolaire. Parce que l'homme le dit tout à l'heure qu'il y a des enfants même de 5 ans qui disent tapoter, tapoter. Et qui dit ça, qui a ce lexique, renvoie justement à des contenus, tout ça, voilà. Et c'est ça qui est en vogue maintenant. Et c'est ça qui dénature les élèves. C'est ça qui les désoriente. Et donc, je crois que le gouvernement qui voit venir le mal a mis à l'article 5 de cette décision qu'il est, je cite, il est interdit à tout élève en situation d'apprenant de créer, de publier, de diffuser ou de partager sur les réseaux sociaux des contenus indécents, attentatoires à l'honneur et à la dignité ou susceptibles de nuire à l'image de l'établissement scolaire. Ça voudrait dire que maintenant, ce n'est même plus dans le cadre scolaire où tu es à l'école comme ça.
Oui.
Même si tu es à la maison et que tu crées un contenu parce que nous sommes à l'ère de TikTok, chacun se défoule avec son téléphone, mais tu crées ton TikTok et tu crées un contenu TikTok et avec quelque chose d'attentatoire à l'image de l'établissement, c'est que tu es également en difficulté. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on s'appelle élève au Togo, il y a des conduites à tenir, il y a toute une réglementation à suivre, et je crois que c'est une belle manière, que je l'ai dit tantôt, c'est une belle manière pour le gouvernement, à travers les ministères impliqués, de quadriller nos élèves pour qu'ils ne tombent plus dans les erreurs qu'on a vues par le passé, où ils étaient obligés de revenir, demander, faire des excuses publiques, parce que c'est aussi l'image, n'est-ce pas, non seulement des établissements, mais aussi de l'école togolaise qui est en jeu. Et donc, c'est une bonne chose, on ne peut qu'encourager, mais le plus important, c'est de tout faire pour que cette décision ne soit pas, quelque chose qui va être éphémère. Il faut que ça soit pérenne, ça dure dans le temps.
Dans le temps. Ok, alors, nous clôturons le débat avec ce deuil où deux ministres, deux anciens ministres, pardon, et qui sont décédés à l'espace alors de 2 jours au Togo. Je veux bien parler alors de l'ancien ministre Martin Abayom et Georges Haïdam. Nous l'avons appris, bien sûr, c'était dans cette semaine. Et finalement, le Togo vient de perdre alors des fils, hein, des filles, des dix-fils, ou bien.
Oui, il faut reconnaître que cette nouvelle est surprenante, surtout le décès de Georges Haïdam. Mais vous savez que le temps ne nous appartient pas et que nous ne sommes pas maîtres de notre parcours sur la terre. Personnellement, j'ai appris la nouvelle avec une certaine surprise, parce que je me suis dit que pour quelqu'un qui a été vu la veille, justement à une messe, dans les plateaux, le lendemain tôt, on vous dit qu'il est décédé. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas comme ça, mais que c'est vrai que ça fait froid dans le dos, et que la terre lui soit légère. Toutes nos condoléances à la famille, à sa famille, ainsi qu'à celle du professeur Adwayom. C'est quand même deux grandes personnalités qui sont parties. et que la terre leur soit légère.
D'accord. Ambrose, déjà quand on prend les deux, il y a d'abord le professeur Martin Advayol de la CDPA et aussi Georges Aïdam qui était au CAR, après tout à l'UNI. C'est des gens quand même de parcours hein, en matière politique et qui ont su aussi influencer le Togo.
Oui, d'abord le volet politique. Du portrait de ces deux personnalités. Quand on parle de Georges Aïdam, je crois qu'il a fait le cas avant de basculer à UNI,
oui,
avec tout son bagage et armes. Et avant que je ne le voie plus dans les meetings, à la télé, et que ce soit sa mort qu'on annonce. Effectivement, j'ai vu un truc, on disait que déjà la veille, on l'a vu, en public, quelque part. Bon, la mort, c'est ce que la mort fait aujourd'hui.
Ça surprend toujours.
Depuis le mois de mai, je l'ai dit ici, jusqu'à ce mois d'août.
Septembre,
oui.
Le cycle continue. Chaque famille, c'est dans chaque famille. C'est dans chaque famille. La mort endeuille les gens. Et donc, moi, je ne peux que dire que la terre soit légère par rapport à l'autre qui est Adouayom, je le connais bien. Quand Maître Agbogbo était Premier ministre, il était du CAR. Et c'est un monsieur qui est d'abord posé calme. Il n'est pas... Je me rappelle, il y avait des Camerounais, des journalistes camerounais, d'un groupe là, très surfureux, qui était arrivé. Moi, j'étais chez Maître Agbogbo, et c'est lui, et qui m'avait appelé, il disait qu'il y a des Camerounais qui étaient arrivés. Moi, je devais même, en même temps, faire une interview au professeur Adouayom. Quand j'étais là, à sa audience, c'est les gens qui sont arrivés, et ils sont allés au secrétariat. Sans que le secrétaire lui donne son naval pour qu'il vente, chez le ministre, et ils ont ouvert le ministre du ministre. Ça, moi, je l'ai mis de la main ici. Et c'était un des ministres, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre de l'Enseignement
supérieur.
Le ministre dit, laissez-les venir. C'est devant moi. C'était devant moi. La manière dont le ministre a réagi, j'étais un certain Yves Yakuba, je ne sais pas. Ou encore, qui encore, que donne-moi le mot de ministre. Ça ne passe pas. Donc, un homme était quelqu'un d'affable. Quelqu'un complètement effacé, mais qui était dans ce qu'il a appris comme métier. Tant que professeur, et il était, franchement, il était tout calme, quoi. Et il nous demandait de venir. Bon, j'ai dit non, moi je suis venu pour faire une interview. Et les gens, ils étaient au bout de 5 ans. Et quand ils viennent, ils sont terribles. Hein. Ils font les choses là-bas, ils font là. Bon, moi j'étais là. Et après, je suis venu, j'ai dit, mais quand même, ils ont fait là, c'était pas bien, il faut, les Camerounais sont comme ça, il faut les laisser. Pour dire que le monsieur, il a un cœur. C'est un monsieur qui est énorme. Il est très ouvert et je regrette quand j'ai appris ça. Je sais qu'il est âgé. Il doit être âgé. Je ne sais pas s'il a dépassé les 80. Mais ils sont du même encadrement que professeur Mouyani. Il est même plus âgé que Maître Agbogbo. Hein, professeur Mouyani. Ils sont de la génération 75 et de là, quoi. Et donc, je me dis, même il y a l'autre, dans le bord, voilà.
Oui.
C'est ça. Je les connais. Hein, je les connais. Pour avoir frotté pendant longtemps avec Maître Agbogbo, je les connais et je dis tout simplement à la famille que son âme repose en paix. Mais je dis souvent que si la personne dépasse 75 ans, moi c'est personnel. Moi je ne plains plus. Mais il y a des gens qu'on aimerait rester plus avec nous. Parce que la personne qui est même âgée, il y a toujours quelque chose qu'elle vous dira, qui vous conseillera dans la vie.
D'accord.
Mais il y en a qui aussi partent tout tôt. Mais donc si la personne atteint son 10, son 15, 80 ans, il faut rendre gloire à Dieu.
D'accord, il faut rendre gloire à Dieu. Donc là, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ces derniers temps, notre scène politique se vide alors de ses acteurs?
Ah oui, c'est un constat. Et lui le dira le contraire. Ces derniers temps, ces dernières années, on voit passer comme ça les éminentes personnalités du pays qui vont de l'autre côté, à Bouyibogne et Demkodjo. Ils sont pleins. Actuellement, je crois que l'ancien Premier ministre, Koumoutier,
vous voulez dire
Koumoutier, oui. Il n'est pas encore inhumé, à ce que je sache. Lui également, il est décédé, il n'est pas encore inhumé. Et donc, depuis un moment, c'est un constat qu'on fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Le philosophe l'a déjà dit. Lorsqu'on est, on est déjà assez vieux pour mourir. Mais le plus important, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on fait de son existence. Lorsqu'on vit sur Terre, on n'est pas là éternellement. Le peu de temps qu'on aura à faire, il faut qu'après son décès, qu'on parle en bien de vous. Même si c'est 20 ans, c'est 15 ans, il faut, si vous étiez balayeur, il faut qu'on dise qu'il fut un balayeur ici qui faisait bien son job. Et on n'a pas fini encore de pleurer Monseigneur Bariga, lui aussi il est parti. Mais personne ne sait de quoi demain nous réserve. Pour ce qui est du ministre Aïdam, il semblait même qu'à la veille, comme je le disais, il était à un événement, il a même pris la parole, il a parlé. Et si on disait aux gens que juste le lendemain, on ne le reverrait plus, personne ne croirait. C'est pour dire que peut-être là, on va parler un peu en chrétien ou en apprentis chrétien. Il faut s'attendre à tout moment à l'appel du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est bien de se comporter comme nous le recommandent les Saintes Écritures pour qu'après, qu'on ait la paix du cœur. Encore que pour le cas de nos deux élus personnalités, ils ont atteint l'âge même, l'âge auquel recommande, enfin, l'âge, c'est 75 ans, non, ou 70 ans par rapport à la Bible.
Ben, ils sont donc, je crois que, le plus, c'est 80 ans.
Voilà, ils ont vécu. Ils ont vécu, monsieur Aïdam, 78 ans, genre, presque 80 ans. Donc, je crois qu'ils sont partis, ils sont partis. On ne peut que leur souhaiter repos éternel et que, voilà, Dieu leur accorde.
Si tant est que nous admettons qu'aujourd'hui, la classe politique se vide même d'ailleurs de ses acteurs, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi un renouvellement qui se fait?
Le renouvellement ne suit pas. Vous savez, toutes ces personnes qui ont marqué la vie politique du pays sont en train de partir sans véritablement disposer d'un héritage. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la plupart des partis. Tous les partis actuellement presque sont en crise. C'est un spectacle malheureux et, excusez-moi, dégoûtant auquel on assiste dans plusieurs partis. Vous avez vu la succession dans des partis, tout ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres partis, c'est compliqué. Et il va falloir que, comme je l'avais dit ici, il va falloir que ceux qui sont à la tête des partis pensent déjà à leur futur. C'est-à-dire, quand vous allez léguer le parti à quelqu'un, comment est-ce que le parti va se porter? Et il faut aujourd'hui que ceux qui sont les militants dans ce parti comprennent aussi qu'il faut participer à la vie de ce parti. Vous n'êtes pas dans un parti en regardant le président tout faire. Quand vous êtes comme ça, vous êtes dominé, vous êtes affaibli, et quand vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, parce que avoir la carte de militant d'un parti politique, ou même d'une association, ou bien membre d'une association, c'est que vous êtes à jour de vos cotisations. C'est que vous vous engagez. Ça fait que quand vous parlez, les gens se taisent, les gens vous écoutent. Mais si vous laissez l'association, le parti politique reposer sur les bras du président, sur les épaules du président, vous comprenez que c'est lui qui décide de tout et de rien.
Et finalement,
il ne va jamais passer la main, il ne va jamais penser à l'après, à son futur. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de partis qui n'ont pas réussi à tirer meilleure partie de leur président, de leurs aînés, de leurs grands frères, des jeunes qui sont là, mais qui n'ont pas cet héritage-là par rapport justement à la façon dont leurs responsables ont géré le parti.
Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent à rentrer aussi en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 ou en 75. Oui, bonjour.
c'est M. Comblin du lycée.
Oui, M. Comblin, comment vous allez?
Ça va très bien. Je pense que vous aussi, vous allez bien, que tout le plateau va bien.
Ça va pas, la grâce de Dieu. Allez-y. Mmh.
J'appelle encore pour m'insurger une fois de plus contre le décret de 2007 qui interdit à nos enfants de passer, de sauter une classe. Parce que j'ai un enfant. Elle a déjà fait l'école au Ghana. Donc, lorsqu'elle est venue ici, elle devait passer au CM2, mais on l'a inscrit au CE2. Donc, après, vu ses performances, on lui a fait passer une place, quoi. Donc, lorsqu'elle était au CM1, on l'a mis en classe de 6e, vu ses performances. Elle était première en plus.
Elle était
encore première, quatrième première, troisième première. Mais malheureusement, on lui dit qu'elle ne peut pas passer le BPC cette année. Elle a 18 ans. Donc, ceux qui sont derrière elle sont passés. Et ils ont reçu leur BPC. Maintenant, on dit qu'elle est obligée encore de faire la troisième. Or, il n'y a pas longtemps, je pense que vous aussi vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, un enfant a eu son bac à 12 ans. Malgré ce décret de 2007 qui interdit ça. Parce que pour avoir le bac, il faut faire 13 ans de classe. Mais comment est-ce qu'on a fait? C'est toujours au Togo. Donc, je m'insure sur cette loi, je dis que cette loi est finie.
D'accord.
Cette loi qui bannit l'excellence au Togo. Cette loi, il dit qu'il faut l'enlever. C'est pas possible. Mais cet enfant-là qui a eu son bac à 12 ans, comment est-ce qu'on a fait? C'est toujours au Togo. Donc, c'est un pays à deux vitesses. À 18 ans, on refuse à mon enfant de passer le BPC, malgré qu'elle soit première de la classe. Et maintenant, un enfant, lui, à 12 ans, il a son bac. Mais comment est-ce que c'est possible? Cette loi est unique, il faut l'enlever.
Ok, merci beaucoup. Vous avez été largement compris. Monsieur Comblin, 90-86-35-35, allô?
Allô?
Oui, bonjour, papa. Sardinet, oui.
Oui. Je salue les invités. Oui, parlons du gaz. Moi, je crois que nous sommes au 21e siècle d'avancé. Moi, je ne suis pas chauffeur ni vendeur de gaz. Mais ce que je vois, c'est qu'au Ghana, ici, la plupart des voitures utilisent du gaz. Même l'essence que nous utilisons, c'est vraiment dangereux. Et le crédit avec lequel on conduit l'avion, là, c'est vraiment pas inflammable. Donc, si tu vois que le gaz consomme vite, bon, c'est trop dangereux que s'il y a des voitures qui utilisent du gaz, là, que c'est pas bon. Non, on doit avancer. Hein. Nous sommes vétérinaires, c'est ce que moi je vois. Bonne journée.
D'accord, allez, bonne journée à toi aussi, Papa Sodiné, pour votre intervention. 90-86-35-35, 91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ça nous finit à ma voix.
Oui, c'est bien à vous.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Oui. Alors, en bref, comment va faire, moi? Vous prenez du gaz, moi. Et vous tournez le gaz aussi qui nous a donné. Depuis que vous avez dit qu'on va diriger ce pays là autrement, le gaz est à 5 000. Disons que 5 000, parce que dans 5 000, on te donne 250 pour le gaz de 6 kilos. On ne comprend plus rien. Ou bien, bon, ça dit, on a ouvert. À moins l'infini, la pauvreté, et à plus l'infini, la recherche pour cette minorité-là, quoi. Il y a les deux infirmités, et l'infirmité la plus grande, comment l'infini, la pauvreté. Et c'est dans ce gouvernement-là qu'on fait les péages, on fait tout ça, là, les taxations, patatras, c'est dans la 7e République qu'on rentre avec les mêmes problèmes. Donc, depuis la croissance,
économique. Comment va le faire, Ambroise? Aidez-nous là. Qui va entendre notre cri au Togo? Par rapport à la rentrée, là, de la qualité d'aller marcher pour acheter les produits à nos enfants, là, vous les avez recommandés là. On a mis le galmarie sur la couverture. En temps normal, dans le cas, on parle de garde. Moi, je trouve que c'est quand même mal fait. Ça revoit l'année prochaine, on va mettre une paille de garde à l'intérieur des cahiers. Sinon, les cahiers, là, ne seront pas couverts. Sinon, bon, ça n'a pas d'effet parce que quand on couvre ces cahiers-là, ces armoires-là seront cachées. Bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90 86 37 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir à la presse. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, Monsieur Kofi.
C'est Monsieur Kofi, allez-y.
Oui. Je veux bondir sur le gaz et l'interdiction de l'électricité. Pour le gaz,
Monsieur Kofi, oui, je vais vous prier de parler dans le combiné pour que nous puissions mieux vous écouter.
Oui, je disais, donc, le prix du gaz, c'est trop élevé. Et lorsque votre collègue disait là-bas, dit tout à l'heure que oui, c'est pas seulement au Togo, que le prix est trop élevé. Mais pourquoi ici, à Lomé ou au Togo, il y a des mises à jour au niveau de la fiscalité, je veux dire l'OPA et consorts. Il y a des mises à jour. Et au niveau de la grille salariale, il n'y a pas de mise à jour. Pourquoi il n'y a pas de mise à jour? Au Togo, c'est trop cher qu'ailleurs. En Afrique, c'est trop cher. Déjà, là maintenant, je reviens sur l'interdiction là. Qui parmi vous là-bas n'a jamais lu un roman quand il était à l'école? On avait le professeur en train de faire le cours et lui prend un roman placé sur le banc, une bande dessinée, en train de lire. C'est parce que en cette période-là, on n'avait pas de téléphone. Sinon, on en faisait pire. C'est un cas isolé que le prof est en train de faire le coup, lève là avec son téléphone. C'est un cas isolé. Et maintenant, le professeur même ne maîtrise pas l'outil informatique. Assez d'interdits, il y a trop d'interdictions, c'est ça qui amène des tentations. Le professeur même ne maîtrise pas l'outil informatique. Même des catastrophes scientifiques, le professeur n'arrive pas à les manipuler correctement. Comment interdire ce genre de trucs? Moi, je pense que ça retarde même notre éducation. Parce que, combien de je sais pas, de ministères qu'il y a encore aujourd'hui à l'ONU ou au Togo? Je ne veux même pas parler de médiathèques, hein. Je dis bibliothèque simplement. Combien on en a? Mais, si on éduque bien les élèves, le peuple dire sortir de vos tablettes, vous sortez vos téléphones dans vos smartphones, la télé vraiment. Puisque vous avez tout dans le smartphone aujourd'hui, vous pouvez tout lire. Les résumés, les exposés, vous avez tout. Pourquoi interdire? Moi, je pense que c'est l'éducation.
D'accord.
C'est ça même qu'il faut.
Ok.
Trop d'interdiction, c'est ça qui donne la tentation. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi, pour votre intervention 90-86. 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô? Allô?
Allô?
Oui, madame, ici, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Oui, bonjour.
Voilà, notre pasteur vient de passer pour exprimer sa rancœur encore à propos du passé. Que les gens bannissent l'excellence dans ce pays-là, et c'est vrai. Bon, maintenant, je vais dire pour moi, ancien et récent, hein, tout le monde passe, et puis cela dit, même le régime, lui, là, et petit, lui aussi va passer, il passera. Maintenant, les interviews de l'Android, tout ça, là, est-ce que la France aussi l'interdit? Hein, je crois qu'il faut juste sensibiliser les enfants, mais ils auront au moins le 1 plus 1 là. l'État s'est obligé tout le monde. L'interdit, on est à l'heure des réseaux sociaux, quoi, de l'intelligence artificielle. Hein, interdit, tout le temps. Il faut voir la manière aussi. Ils doivent avoir un téléphone. Donc, quand je demande ce qu'on veut, moi, les élèves doivent en avoir. Et si vous parlez du gaz, sans tout ça là, moi, j'ai toujours proposé aux dirigeants là, hein, qui sont tenus au pouvoir, de passer la main, de trouver une formule pour passer la main la semaine prochaine, par exemple. Vous allez voir, on achètera le fuel à 300 francs le litre, ça suffira. Et la tonne de ciment à 25 000, c'est bon. On produit le ciment, on a les matières premières. Et puis le gaz, le 5 kg à 1500, c'est bon. Le grand là, à 4500 maximum, c'est tout bon. Ils n'ont qu'à passer la main pour voir si on ne sera pas heureux, quoi. Si on va les pleurer. C'est tout.
D'accord, merci. Tout, voilà. Merci, madame, ici, pour votre intervention. Je pense qu'elle est la dernière auditrice hein, pour le compte à l'heure de cette émission de ce jeudi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer. Amos.
Oui, tout d'abord, je voudrais. Si le monsieur dont, qui parlait de son enfant qui a.
Oui, monsieur Comlin.
Dont on a sauté les classes jusqu'en 6e, il n'a pas mentionné que l'enfant a eu son CPD. L'enfant a quitté le CNO pour aller en 6e. Ce qui bloque l'enfant à passer le DPC régulièrement et classiquement, c'est que l'enfant n'a pas le CPD. Mais là, ce que moi je lui conseille, avec le niveau de cet enfant qui dépasse déjà le niveau 3e, que l'enfant revienne passer le CPD et que la même année, il peut passer le DPC, il va réussir les deux. Qu'il fasse un dossier à travers un établissement scolaire et même le ministre peut lui donner une délégation. C'est possible. Et maintenant, dans la même année, ce même enfant peut passer le DPC. Les deux examens, à la fois, il va réussir.
D'accord.
Parce que l'enfant n'a pas eu le CP2, et ce n'est pas possible. Au Togo, si tu n'as pas le CP2, tu ne peux pas passer le DPC. Au Togo, si tu n'as pas le bac 1, tu ne peux jamais passer le bac 2.
C'est clair.
Au Togo, si tu n'as pas le DPC, tu ne peux jamais passer le bac 1. Donc, c'est ça. L'enfant doit être intelligent, mais il faut qu'il y ait le respect des normes académiques.
Oui. D'accord. Oui, et
donc, effectivement, on peut lui faire une dérogation pour qu'il passe le CPD et le DPC dans la même année.
D'accord.
C'est possible.
Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec l'avant-dernier auditeur qui a parlé de smartphone, que tout est dans le smartphone. Mais attends, le communiqué ou l'arrêté n'a pas interdit aux parents d'acheter des téléphones portables à leurs enfants. Mais on leur a juste demandé de ne pas laisser les élèves l'utiliser lors des cours ou en classe. Ou lorsqu'ils sont à l'école, c'est normal. Quand on dit que oui, aujourd'hui, les enseignants ne savent pas utiliser les smartphones, la technologie, mais nous aussi, quand on était à l'école, on n'y avait pas l'ordinateur. Aujourd'hui, on manipule correctement un téléphone, pourtant, on sait manipuler un ordinateur. C'est ça, on s'est adapté à l'évolution de la société, c'est tout. Mais on ne va pas dire que parce qu'on a évolué, la génération actuelle a évolué, on va le faire comme ça, non. Mais parce que quoi? Quand on dit que oui, tout est dans le smartphone, il y a des livres numériques, il y a combien de bibliothèques, oui. Mais la FNAC n'a pas disparu dans les pays. La FNAC, là où on vend des livres, la production du savoir, en France comme en Europe, en Afrique, en d'autres pays, la FNAC existe. Mais il y a le smartphone, il y a des livres numériques, mais la FNAC continue de vendre des livres. Aujourd'hui, si vous voulez le tout nouveau livre, vous commandez en ligne, on vous envoie ça en dur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte aussi de lire un livre sur un smartphone. C'est même déconseillé par certains. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine luminosité, il faut beaucoup tamiser pour pouvoir avoir une santé oculaire. Mais l'ophtalmologiste même vous dit qu'il faut aller acheter le livre en Dieu.
Puisqu'il y a la lumière bleue qui agit toujours.
Voilà, le livre en Dieu pour pouvoir lire tranquillement. Donc il y a la FNAC, vous commandez votre livre et puis vous lisez tranquillement. Donc on ne va pas dire que oui, parce qu'il y a moins de bibliothèques, tout est digitalisé, tout ça. Mais les FNAC ne sont pas. Ils ont le système bivalent. C'est-à-dire qu'ils ont le système duo. Ils sont en ligne et en même temps ils vendent le livre dur. Et les écrivains n'ont pas cessé de produire le dur. Ils ne sont pas tous au digital. Ils font de l'imprimerie. Les imprimeries n'ont pas fermé à cause du digital. Donc on ne va pas aussi tout mettre. Il faut juste que l'enfant respecte ou l'élève respecte le fait de ne pas utiliser son téléphone portable en milieu scolaire. C'est fini.
D'accord, c'est fini. Alors, je reste avec toi pour ta note alors de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de note de fin d'émission. Bonne journée à toutes et à tous.
D'accord, merci Ambroise. Ta note de fin d'émission.
Si je dois avoir une note, c'est juste pour rappeler ce que j'ai dit au tout début, de faire diligence pour que les policiers soient à l'entrée d'une cité technique pour faire passer les enfants dans l'enceinte, ou pour qu'on envisage faire des feux rouges là-bas.
D'accord. Mangola?
Non, pas de note non plus, mais nous sommes vraiment au dernier jour justement de ces belles vacances, comme nous l'avons écrit dans notre éditorial de ce jour. Pour souhaiter donc une belle rentrée scolaire à tous les élèves, d'interpeller justement tous les acteurs de la chaîne à s'y mettre, à s'appliquer pour que à la fin de l'année, que l'école togolaise réussisse.
Merci beaucoup, Magloire, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour animer cette émission. Merci, Elom Asobo, d'être passé aussi dans cette émission. Ambroise Kondo, merci à toi d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés, vous qui nous avez suivis. Merci à vous. Michel Touréga, merci à toi pour la mise en onde de cette émission. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.